Jean-Roger Billon, il est 9h en temps universel. Bonjour à tous. Dossier syrien, aucune décision finale n'a été prise, a affirmé Sarah Sanders, la porte-parole de l'exécutif américain. Le président Trump a poursuivi les discussions avec ses alliés. Hier, la première ministre Theresa May et le président français Emmanuel Macron, après avoir réuni jeudi son équipe de sécurité nationale. Les options de Donald Trump sur de possibles frappes aériennes en Syrie étaient attendues après l'attaque chimique présumée dans l'enclave rebelle de Douma. Pourquoi la crise syrienne est-elle passée d'un soulèvement populaire à un conflit international? Les explications de Frédéric Pichon, chercheur et spécialiste du Moyen-Orient à Paris.
La férocité des dictatures de la région a fait que, en quelque sorte, on s'est retrouvé avec une force d'opposition qui était celle des islamistes, nourrie d'ailleurs assez complaisamment par un certain nombre de puissances régionales comme l'Arabie Saoudite ou le Qatar. Évidemment, les responsabilités reviennent aussi au régime dans la manière dont il a géré au départ cela, mais moi, mes observations, c'est que assez rapidement, on a eu une militarisation de la révolte et que les quantités d'armes et de combattants qui ont afflué en Syrie n'avaient rien d'absolument spontané, si vous voulez. À présent, il reste des groupes djihadistes, effectivement, du côté d'Idlib, ou encore ceux qui restent de l'État islamique. Mais on est passé à une autre guerre, qui est une sorte de guerre froide entre des puissances internationales et des puissances régionales.
Le chercheur français Frédéric Pichon. Volte-face du président américain sur le traité transpacifique, Donald Trump envisage de rejoindre le nouvel accord de libre-échange s'il est meilleur, après s'être retiré sans ménagement du traité initial le jour même de son arrivée à la Maison-Blanche l'an passé. Une volte-face qui soulève des critiques. La Maison-Blanche avait auparavant annoncé jeudi que M. Trump avait chargé un de ses conseillers économiques, Larry Kudlow, et son représentant américain au commerce, Robert Lighthizer, de regarder s'il y avait une possibilité ou non de négocier un meilleur accord. Pour Tokyo, il serait extrêmement difficile de renégocier certaines parties du traité, désormais appelé partenariat transpacifique global et progressiste. En Afrique, le candidat malheureux à l'élection présidentielle en Sierra Leone, Samora Camara, a saisi la Cour suprême pour contester la victoire de Julius Madabio, qui a annoncé jeudi la composition de son gouvernement. Monsieur Camara avait pourtant félicité Monsieur Bio le 7 avril lors d'une visite à son domicile avec une délégation de son parti, l'EPC. Les deux hommes s'étaient serrés la main et donné la collade devant les caméras. Les missions d'observateurs présentes lors des élections ont généralement salué le bon déroulement du scrutin et M. Bio a reçu des félicitations de la plupart des dirigeants internationaux. La date de la décision de la Cour suprême n'était pas encore connue. Dans l'immédiat, une cérémonie officielle d'intronisation du nouveau président est même prévue le 12 mai à Freetown. L'Union européenne et les Nations unies ont maintenu la conférence humanitaire pour la RDC ce vendredi à Genève, cela malgré le refus de Kinshasa d'y participer. Nathalie Barge.
Nous essayons de lever de l'argent, non pas pour le gouvernement, mais pour les millions de gens qui ont désespérément besoin d'assistance humanitaire, a déclaré un porte-parole onusien, Jens Lark. L'ONU et l'Union européenne entendent lever 1,7 milliard de dollars pour la réponse humanitaire nécessaire en RDC. La conférence de Genève devra déterminer qui va gérer cet argent. Kinshasa accuse l'ONU de noircir la situation en RDC et de faire fuir les investisseurs. Le gouvernement affiche un nombre de déplacés internes 20 fois inférieur aux estimations du HCR qu'il estime à 4,5 millions. Ce que nous avons refusé, c'est que l'on organise une conférence humanitaire sur la détresse en RDC en ignorant le gouvernement de ce pays. C'est tout à fait intolérable, a répété le ministre congolais des Affaires étrangères, Léonard Chiokitundu. Kinshasa a annoncé récemment 100 millions de dollars d'aide gouvernementale pour les besoins humanitaires, tout en soulignant ne pas être fermé aux contributions extérieures.
Et plus de 1000 enfants ont été enlevés depuis 2013 par les djihadistes de Boko Haram au Nigeria. C'est ce qu'a annoncé l'UNICEF aujourd'hui au moment du 4e anniversaire de l'enlèvement emblématique de Chibok. Jean-Roger Billon à ce micro. Prochaines infos dans 55 minutes. À tout à l'heure.
Soyez au cœur de la réflexion.